C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, C'est pas du vent est au MUCEM aujourd'hui, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, posé face à la mer sur l'ancienne digue destinée à protéger le port des vagues trop fortes. C'est là que les architectes Rudy Ricciotti et Roland Carta ont bâti ce majestueux bâtiment de 45 000 mètres carrés, un bloc minéral entouré d'une résille de béton entièrement dédiée à l'histoire et au mode de vie des habitants du pourtour de la Méditerranée. La nouvelle exposition Vie d'ordure, inaugurée cette semaine, présente la manière dont les populations aux alentours de la Méditerranée gèrent leurs déchets. Basé sur des enquêtes ethnologiques, c'est un vrai voyage entre objets, maquettes, documents, photos et vidéos dans l'envers du décor de nos sociétés de consommation.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Denis Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue de formation, conservateur en chef du MUCEM et commissaire général de cette exposition dont vous avez eu l'idée. Alors quelle est votre ambition à travers cette exposition ?
Alors c'est une ambition simple et compliquée à la fois. C'est notre ambition, c'est simplement que nos publics, qu'on espère nombreux, regardent au fond en rentrant chez eux et après cette exposition leur poubelle avec un autre œil. Pourquoi ? Parce que on va essayer de leur dévoiler ce qu'il y a derrière cette poubelle, c'est-à-dire finalement ces gestes d'hommes et de femmes à qui nous déléguons le soin de s'occuper de nos déchets. Alors c'est simple, l'idée est simple, elle n'est pas aussi simple que ça à mettre en espace, à mettre en exposition, à en faire un parcours. Et pour cela, évidemment, nous avons été aidés par d'excellents scénographes qui ont travaillé avec nous pendant 2 ans.
Alors il s'agit de questionner nos modes de vie, nos modèles de consommation, de production. Alors c'est vrai que l'exposition est très pédagogue puisque finalement on suit le déchet. Hein, ça démarre par la catégorie nommée, mesurée, classée et puis on enchaîne sur réparer, jeter, trier, remployer, recycler, réduire et puis à la fin essayer de mobiliser pour limiter le nombre de déchets. Il y a toute une volonté comme ça pédagogique pour sensibiliser justement le public à cette gestion individuelle des déchets ?
Oui, sensibiliser, questionner, surprendre aussi le public. Je crois que c'est important dans une exposition. C'est pas seulement apprendre des choses, c'est s'interroger soi-même et s'interroger sur ses propres pratiques. Parce que, au fond, cette poubelle individuelle, elle reflète une poubelle beaucoup plus globale qui est la poubelle monde. Et au fond, il faut dire aux gens que nous sommes tous responsables de cet accroissement exponentiel des déchets sur Terre. Pourquoi nous en sommes responsables ? Parce que c'est nous qui consommons ces objets qui sont eux-mêmes produits et qui, étant produits, produisent des pollutions, produisent eux-mêmes des déchets. Et on montre qu'il y a un amont du déchet qui est celui de la production, puis il y a cet aval qui est celui de la consommation. Mais évidemment, tout ça, c'est lié.
Et puis, pour être très concret, on a justement quelques déchets, là, juste à côté de nous, dans cette magnifique salle, là, au 4e étage du MUCEM. On est face à la Méditerranée, c'est un très beau paysage. Et derrière nous, là, à nos pieds, on a des déchets que vous avez ramassés ce matin. Edmond Blood, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez une association ici, à Marseille, vous avez créé, qui s'appelle Un jour, un déchet. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure. Mais juste en venant ici, oui, au studio monté ce matin au MUCEM par RFI, vous avez ramassé sur 2 km vos déchets. Là, vous prenez le petit papier, il y en a une quantité incroyable, rien que sur 2 km.
C'est impressionnant. Hein, vous voulez que j'en parle maintenant ou tout à l'heure ?
Mais juste racontez-nous ce que vous avez ramassé marchant.
Avec plaisir, je suis parti du bureau à 10h. J'ai mis une demi-heure pour faire 2 km et j'ai ramassé une demi-sac poubelle de déchets entre Boulevard de la République et le MUCEM en traversant le panier. Et j'ai acheté 6 canettes de Capri Sun. La liste est longue. 30 mégots, des cigarettes, des Heineken, des capsules, des tranches de rôti de dinde, si vous en avez faim. 2 trans-tickets, 2 tickets parking. Plein de choses. Et c'est hallucinant. Et pour moi, c'est super positif parce que ça montre qu'il y a un problème. Et le but maintenant, c'est de dire qu'on est tous capables de ramasser un déchet par jour pour la santé de la mer et la nôtre.
cette mer qu'on a justement face à nous. Alors Yann-Philippe Testevin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, commissaire associé de cette exposition. Et cette exposition, elle est basée justement sur des enquêtes ethnographiques qui ont été réalisées en Turquie, en Albanie, en Égypte, en Italie, en Tunisie, au Maroc et dans le sud-est de la France. Alors ces enquêtes, ça s'est passé comment ?
Donc en fait, on a associé dès le début de ce projet des chercheurs qui étaient familiers des terrains, qui étaient familiers des villes que vous avez décrites, qui travaillaient déjà depuis un certain temps dans ces endroits. On les a associés en fait à des vidéastes et des photographes et on leur a demandé de revisiter ces lieux pour en collecter ce qu'on peut voir dans l'exposition.
Et à chaque fois, vous avez associé donc un ethnologue avec un photographe ou un vidéaste. Et ça donne beaucoup de documents, en effet, qu'on peut voir dans l'exposition.
Oui, c'est en ça qu'on parle d'une exposition Made in Mucem, parce qu'effectivement, toute cette production, elle est tenue. Alors, évidemment, par des ethnologues, mais aussi des géographes, des océanographes. On a vraiment voulu avoir une approche pluridisciplinaire, parce qu'il y a les déchets que tu as ramassés tout à l'heure, qui sont très visibles. Et on s'aperçoit aussi que maintenant, on a des pollutions émergentes. On parlait de la mer face à nous. Et finalement, les déchets les plus dangereux ne sont pas les plus visibles. Donc ce sont ces plastiques qui ne disparaîtront jamais, qui se décomposent et qui aujourd'hui on retrouve à différents endroits de la Méditerranée. Donc des collectes, on en a fait au Caire, dans ce fameux quartier des Abalines. On en a fait, et je regarde Pascal, au Maroc et à Istanbul, mais on en a fait aussi en mer Méditerranée avec les collègues de l'Ifremer.
Alors Pascal, parce que les auditeurs ne l'ont pas encore entendu, donc ils peuvent se demander qui c'est. Pascal Garret, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe, vous avez suivi les récupérateurs au Caire, à Istanbul, à Casablanca, entre autres. Qu'est-ce que vous aviez envie de montrer à travers vos photos ?
Alors moi, c'est en fait ce qui m'intéresse avant tout, ce sont les gens. J'ai fait d'abord des études d'architecture que j'ai vite abandonnées. Enfin non, je les ai terminées, mais pour faire de la sociologie, parce qu'avant tout, ce sont les gens qui m'intéressent. Et très vite, en faisant des enquêtes sociologiques, la photographie m'a paru être un média très intéressant. Pour moi, moi, je vois la photographie comme une science sociale. Et donc, en suivant ces récupérateurs, je voulais avant tout comprendre ces gens, comprendre leur manière de travailler, comprendre leur intelligence et aussi les rendre visibles. Car en général, ces gens qui travaillent sur les déchets, les récupérateurs de rue, etc., sont des gens qui eux-mêmes déjà se rendent invisibles, mais surtout qui sont invisibilisés par la société. Donc le but de mon travail est autour de cette question.
Et c'est vrai que des déchets, nous en produisons des milliards de tonnes qui polluent nos paysages. L'île de Djerba, par exemple, avec ses 514 km², est la plus grande île des côtes d'Afrique du Nord. Elle a joué un rôle de carrefour commercial et culturel pour la Méditerranée dans la période antique et médiévale. La Tunisie aimerait bien qu'elle soit classée au patrimoine mondial de l'humanité, mais ce n'est pas gagné, notamment à cause de la mauvaise gestion des déchets, comme l'a constaté Pauline Baduel lorsqu'elle s'est rendue à Sidi Djimour, une des plus belles ressources naturelles de l'île.
C'est pas magnifique, on dirait une oasis.
Comme dans un road movie américain, une seule route en ligne droite dessert l'est de Djerba. Pour repère, des palmiers, des dunes de sable, mais baissez les yeux et c'est un tout autre décor. Le plastique, la ferraille s'entassent sur le bas-côté. Dans sa Jeep, Jean-Marie Astier, ancien professeur d'SVT, rouspète. Tous les dimanches, il ramasse briques de lait, bouteilles en verre, chaises cassées.
Voilà, alors là, c'est un papier de déchets. Il n'aurait pas pu être mis dans un conteneur. Vous allez voir sur la plage de quoi est constitué le sable. Regardez, ça brille.
De loin, c'est vrai, le sable est blanc, presque éblouissant. Seulement impossible de marcher pieds nus. Les morceaux de plastique dévorés par la mer se confondent avec les coquillages.
C'est désolant. Puis en mer aussi, le nombre de tortues mortes qui sans doute ont avalé ces sacs en plastique est extraordinaire. Sur les plages, on voit les tortues, puis on voit leur squelette. Parfois, tous les 50 mètres, il y en a une. Là, on approche de Borgili.
Pourtant, Sidi Djimour est chouchouté par les pêcheurs. Des embarcations en bois d'olivier confectionnées à la main, pas de moteur. L'écologie est donc bien là, mais une fois sur terre, plus rien.
Évidemment, ça demande de l'argent. Il faudrait un sponsor qui peut-être, je ne sais pas moi, tous ces grands hôtels, c'est leur intérêt de protéger l'environnement pour les touristes, parce qu'ils ne restent pas que dans les hôtels, ils vont profiter de ces plages.
Sauf que les touristes ne viennent plus. Pourtant, nous sommes seulement à 10 km des premiers hôtels. Pas un chat, à l'exception de quelques habitants d'Umtsouk. Sophia, 18 ans, plante sa toile de tente ici tous les week-ends.
Enfin, moi, je trouve que c'est dérangeant. Ils pourraient quand même ramasser les bouteilles en plastique et tout ça, les mettre dans les poubelles, quoi. Peut-être que les gens, ils boivent, après ils laissent ça par terre. Tout le monde fait la même chose, alors c'est comme ça.
Sous un arbre, Moufida prépare le thé de 4 heures. Toute sa famille s'est installée loin, très loin du monticule de déchets rassemblés par le vent.
C'est un laisser-aller. L'année dernière, il y avait un peu plus de déchets et cette année, c'est encore plus. Il n'y a pas, c'est-à-dire, comme on dit, des personnes pour le faire, pour nettoyer. Il y a plus de liberté de faire ce qu'on veut. On ne sait pas comment la gérer. Avant, vous aviez l'État, si on peut dire, qui faisait nettoyer les plages. Maintenant, personne ne les fait nettoyer.
Libre, les Djerbiens le seraient donc un peu trop. Depuis la Révolution, les municipalités sont engourdies, rien ne se passe, les actions sporadiques sont invisibles. Nasser Bouhabid, président de l'association environnementale Assidj, est très inquiet.
La Tunisie passe par une période transitoire qui tarde à s'en aller, voilà. La gestion des déchets solides, il est du ressort des municipalités. Dans un tel contexte où prévaut l'absence d'une institution municipale légitime, légalement reconnue, élue pour une durée d'une année, il est tout à fait logique de voir malheureusement proliférer des déchets parce que la situation, croyez-moi, la situation environnementale n'a jamais été de cette laideur et de cette gravité.
La volonté est là, pas les actes. Avant d'entrer au patrimoine mondial de l'humanité, il faudra sortir de cette impasse politique.
Apparaît notre visage. Tâchons d'être à la hauteur de ceux qui n'ont pas eu peur. Tâchons d'être grands, au-dessus de la rumeur. Tâchons de rester maîtres de nos ambiguïtés. De rester à l'affût, lucides et révoltés.
Et Moon Blunt, il faut que vous alliez à Djerba, très vite, hein?
Avec grand plaisir. Là, ça me choque, mais c'est pas la première fois que j'ai. Il faut faire quelque chose. C'est le même problème. Avec grand plaisir. C'est le même problème. Je suis ami avec un gars qui s'appelle Amar Adjili, qui nettoie les plages en Algérie de Tepaza. Il ramasse tout seul tous les jours devant les hôtels. Et le problème, c'est que les hôtels aiment pas ce monsieur étrange qui nettoie leurs plages.
Alors que pourtant, c'est leur intérêt.
Mais oui, bien sûr. C'est comme notre ami à Nice qui nettoie sur le promenade d'anglais devant les bars et les boîtes de nuit pour le plaisir. C'est un Américain, c'est un milliardaire américain. Il se promène chaque matin pour aller au gym et il nettoie sur les plages de Nice. Mmh. Mais les bars ne lui offrent même pas un allongé.
Un café allongé.
Wow. Ouais. C'est dingue. Hein.
Même pas un verre d'eau.
Oui.
Denis Chevalier, c'est pour dénoncer ce genre de situation. Pas le verre d'eau, hein, mais le ramassage sur les plages et tous ces déchets que l'on voit partout, que vous avez voulu faire cette exposition. C'est pour inciter les gens à prendre conscience.
Pas dénoncer le ramassage, mais dénoncer effectivement les déchets. Et en vous entendant, je me dis, effectivement, c'est un des messages de l'exposition, je crois, en particulier dans la dernière partie qui s'appelle « Mobiliser ». C'est que peut-être qu'il faut précéder les pouvoirs publics et faire en sorte que ce soit réellement les citoyens qui prennent en charge ces questions de ramassage pour justement inciter ensuite les pouvoirs publics à faire quelque chose. Il y a eu une expérience intéressante à Marseille il y a 2 ans. Il y a une ONG qui s'appelle Sea Shepherds qui est intervenue pour montrer tous les déchets qu'il y avait au fond du Vieux-Port. Ils ont filmé cela. Et puis c'est eux qui l'ont fait, ils l'ont fait en tant qu'ONG, sans au fond la population marseillaise. Alors ça a beaucoup vexé les autorités locales qui se sont dit mais comment, ce sont des Américains qui viennent ramasser nos déchets, c'est pas possible. Donc cette année, ils ont effectivement organisé un ramassage avec des plongeurs des déchets qui étaient sous le Vieux-Port. Donc voilà, ça a incité cela. Je crois que c'est comme ça que l'on va pouvoir fonctionner. Et donc grâce à des gens comme Edmund ou d'autres, on peut faire des choses. Alors je reviens sur la Tunisie. Nous montrons dans l'exposition un petit bocal qui a été fait par une militante écologiste de Tunis qui s'est mis en tête d'avoir un comportement très vertueux puisqu'elle s'est dit « je vais aller dans le sens de zéro déchet ». Alors « zéro déchet » en arabe, c'est « zéro zbel ». Et cette militante « zéro zbel », elle nous a donné un petit bocal, disons, d'un kilo, hein, d'un kilo de confiture au maximum. Et c'était ses déchets pendant 2 mois à Tunis parce qu'elle avait fait l'effort toute seule de recycler, d'avoir moins d'emballage, etc.
Et à côté, et donc, justement,
des exemples.
Oui, à côté, il y a un pot de confiture aussi, qui sont les déchets de 2 mois d'une famille de 4 personnes, une famille française, Jérémy Pichon et Bénédicte Marette, qui sont engagés justement aussi dans cette démarche. Donc, on peut en effet faire changer les choses. Vous dites, cette expo, c'est pas une expo intello. Hein. L'idée, c'est de pas trop se prendre la tête. C'est vraiment de démontrer la réalité du déchet en Méditerranée.
Oui, c'est un peu pour énerver mes copains chercheurs.
Ah,
je fais ça. Mais non, c'est vrai que ce n'est pas une expo intello, c'est une expo qui se veut grand public. Et on s'est dit effectivement que plutôt que de disserter ce que font des chercheurs très bien sur l'être du déchet, sur ses définitions, il fallait partir de ce que fait Edmund, c'est-à-dire que ce qu'on trouve sous nos pieds lorsqu'on marche dans la rue, pour arriver à voir ce qu'il advient de ces choses-là et comment on les transforme. Voilà, c'est un peu cette idée de prendre le déchet dans sa matérialité.
Alors vous dites vos copains chercheurs, parce que Yann-Philippe Dassevin, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont réunis autour de cette exposition qui est en gestation depuis 2014, je crois. Donc il y a eu beaucoup de discussions, d'élaborations.
Ça n'a pas été facile, même au MUCEM, de convaincre de l'intérêt de faire une expo sur les déchets. Donc j'ai un souvenir quand j'ai rencontré Denis, où on a passé beaucoup de temps à leur dire « Ouais, ça vaut le coup, il faut y aller, vous allez voir, ça va être bien ». Et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette histoire? Ils ont fait, moi ce qui m'intéresse particulièrement, et ce que je trouve, on voit très bien dans l'exposition, ils ont fait des enquêtes. Ils ont fait des enquêtes avec les gens qui travaillent au plus près de ces déchets. Et si on prend le CAIR, par exemple, je pense à Jimmy Furniss, anthropologue avec qui j'ai travaillé, mais on était accompagné aussi avec David Deckner, photographe, avec Natalia Douquet, vidéaste. On a revisité un quartier qui est pourtant très connu, qui est ce quartier de Manchiatnas, qui a été popularisé par Sœur Emmanuel, Yalla, la communauté des chiffonniers et tout. Et ce quartier, on pense le connaître. On l'a vu et revu, mais toujours un peu de la même manière. Vous savez, ces vues surplombantes, sur ces toits-terrasses sur lesquels on stocke les déchets. Et là, on le voit véritablement de l'intérieur. On le voit de l'intérieur parce que ce qu'on montre, c'est comment en une génération, ce quartier de collecteurs informels, relégués, est devenu un quartier à ciel ouvert de petits recycleurs. Des recycleurs qui sont des petits entrepreneurs aujourd'hui. Et ces entreprises familiales sont devenues de véritables multinationales de poche qui aujourd'hui transforment les déchets.
Et d'ailleurs, vous avez fait dessiner ce quartier, c'est celui-là, par un dessinateur. Ouais. On voit très bien, du coup, en détail dans l'exposition, les immeubles, les animaux qui vivent au deuxième étage, les déchets sur les toits, toute une économie très intéressante dans ce quartier.
Ça a été un moment très intéressant du processus qu'on décrit. Donc effectivement, on s'est rendu sur place. Un travail photographique a été fait. Et après, avec Bastien Massot, illustrateur, didactique très réaliste, sans jamais s'être rendu sur place, il a reconstitué ce quartier. Et il y a une multitude de détails qui racontent justement cette transformation, comment l'ordure fait architecture dans cet endroit, comment l'ordure aussi elle peut faire corps avec les gens, et surtout c'est cette ingéniosité. On en parlait tout à l'heure, on a véritablement là une exposition sur l'intelligence sociale des techniques et leurs limites.
Pascal Garret, vous faites partie finalement de cette communauté de chercheurs qui avait travaillé sur cette exposition. Et vous me disiez, ça a été l'occasion de rencontrer plein de monde, de créer quoi, finalement une espèce de, je sais pas, de famille de chercheurs sur les déchets.
Oui, enfin il y avait pas que des chercheurs, mais c'est vrai qu'il y a eu de manière très intéressante beaucoup de rencontres ici au MUCEM, à la fois avec l'équipe artistique, avec les commissaires de l'exposition et avec les chercheurs qui travaillaient sur d'autres terrains que moi, pour la plupart, je connaissais pas auparavant. Moi, personnellement, je travaillais avec la géographe Bénédicte Florin, d'ailleurs qui est rentrée dans les déchets avant moi, c'est un peu moi qui l'ai suivi. On connaissait déjà très bien le terrain du Caire dont vient de parler Yann-Philippe. Et nous, on a travaillé plus particulièrement sur les terrains de Casablanca et d'Istanbul, avec un grand intérêt pour les récupérateurs, c'est-à-dire les gens vraiment qui collectent dans les rues, et puis derrière, qui dans des lieux un peu particuliers, amènent leur collecte, trient, parfois transforment, pas toujours, et qui ont un véritable savoir-faire, une vraie intelligence dans ce qu'ils font. Et effectivement, l'idée était vraiment de montrer que ces gens-là ne font pas que fouiller dans des poubelles, qu'il y a vraiment toute une histoire derrière ça, un vrai travail, une esthétique aussi parfois.
Restez avec nous, on va leur donner la parole à ces ramasseurs tout à l'heure. Restez avec nous sur RFI. Nous restons quelques minutes bien installés au quatrième étage du MUCEM face à la Méditerranée. Le temps pour vous d'écouter le flash d'infos et pour nous, peut-être de boire un petit verre d'eau. À tout de suite.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
carrefour de l'Europe.